Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le message que vous allez écouter vous est présenté par l'association chrétienne CIV. Centre d'évangélisation Esprit et Vie, dont la vision est d'apporter par l'Esprit de Dieu l'Évangile qui a franchi de toute servitude. Nous espérons qu'il transformera votre vie. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante. CIV Talence, 244 avenue de Thouars, 33400 Talence. Téléphone 09 51 41 31 20 ou au 06 60 49 69 18. Email civ.talence@hotmail.fr. Merci et bon confort d'écoute. Que Dieu vous bénisse.
David, quand il regardait Goliath, il ne voyait pas la taille de Goliath. Il se voyait au-dessus de Goliath, plus grand que Goliath. Voilà pourquoi il était animé d'une grande assurance. Donc, à cause de leur perception, leur vision a été endommagée. Leurs yeux spirituels, leur perception a été endommagée. Et à cause de cela, ils ne sont pas rentrés à Canaan. Nous voyons beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous voyons? Alléluia. Donc, on a vu ça, la perception. La puissance de la perception, ce que je perçois, c'est ce que j'obtiens. Et aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance, le pouvoir de la connaissance. Nous sommes toujours en train d'étudier la loi de la foi. Quand nous aurons fini les 5 étapes de la loi de la foi, nous allons voir la loi de l'amour. Alléluia. Le pouvoir de la connaissance. Alors, la connaissance est une composante incontournable de la foi. Vous devez noter ça. La connaissance est une composante incontournable de la foi. Quand la Bible déclare que la foi est une ferme assurance, le mot ferme, la fermeté là, ne peut exister sans la connaissance. C'est pourquoi Jésus dit que si quelqu'un a bâti sa maison sur le roc, donc sur la connaissance, la parole de Dieu, sa maison sera ferme, quelles que soient les tempêtes, elle subsistera. Quels que soient les vents, les orages, elle subsistera. Donc, en fait, la connaissance soutient notre foi. Elle a fermé notre foi. Donc, c'est une composante incontournable de la foi. Alléluia. C'est pourquoi dans Osée chapitre 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et dans ce verset, mon peuple périt, Dieu veut nous dire que sans la connaissance, le peuple meurt. C'est-à-dire que quand on n'a pas la connaissance, on meurt. On connaît la mort. Quand on n'a pas la connaissance, on est dans la loi de la mort. On est dans la loi du péché et de la mort. En d'autres termes, quand on a la connaissance, on rentre dans la loi de la vie, de l'esprit de vie. Donc, si le manque de connaissance entraîne la mort, la connaissance nous apporte quoi? La vie. Or, la vie est une caractéristique primordiale. Sinon, c'est la principale caractéristique de la nature divine. On a vu qu'effectivement, la nature divine était caractérisée par la vie, mais aussi par l'éternité et l'incorruptibilité. Alléluia. Donc, ça veut dire que si j'ai la connaissance, je vais rentrer dans la nature divine. Je vais avoir la vie de Dieu. La Bible nous enseigne 4 types de connaissances. Mais moi, j'en ai trouvé 5. En fait, la Bible enseigne 5, mais il y a une connaissance qui n'est pas souvent révélée. Donc, je vais vous parler des 5 types de connaissances. Vous allez noter des mots qui sont pour vous assez, peut-être un peu, comment dire, très, très très fouillé, mais c'est des mots grecs. Et à partir de là, on va voir dans la parole de Dieu ce que cela signifie. On va faire des rapports, des rapprochements. Donc, le premier mot que vous allez noter, c'est le mot logos. Logos, L-O-G-O-S. Logos, c'est la connaissance livresque. Et la connaissance livresque, elle est à la disposition de tout être humain. Nous pouvons acquérir au travers de l'école, au travers de la lecture, au travers de notre culture, une connaissance livresque. Mais cette connaissance livresque, la Bible l'appelle logos. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une connaissance qui donne la vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit que cette connaissance s'appelle la lettre. Pourquoi? Parce que c'est une connaissance livresque. Elle s'appelle la lettre. Et la lettre ne donne pas la vie. La lettre tue. Donc c'est une connaissance humaine. Quand on va à l'école, okay, on apprend des choses. Quand on se documente, on apprend des choses. On se cultive. Ça, c'est le logos. Et nous pouvons également, à l'église, avoir une connaissance livresque de Dieu. On peut connaître la Bible, on peut étudier la Bible, on peut même aller dans des écoles théologiques pour apprendre la Bible. Ça, c'est une connaissance livresque. On peut même connaître de façon livresque la Bible plus qu'un responsable d'église. Parce qu'on peut avoir des outils pour cela. Surtout que maintenant, avec l'évolution technologique, on a accès à des sources d'informations très, très pointues en ce qui concerne effectivement l'information. Et on peut avoir même des connaissances que le pasteur n'a pas, livresques, de la parole de Dieu. Mais la Bible déclare que cette connaissance, elle ne donne pas la vie. Parce que c'est le logos. C'est une connaissance de la lettre. Et la lettre ne donne pas la vie. Or, Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la mort ou dans la nature humaine. Dieu nous a créés pour vivre dans la nature divine. Dieu nous a créés pour opérer dans la vie. C'est pourquoi en Dieu, dit la parole de Dieu, il y a la vie, le mouvement et l'être. Voici trois composantes incontournables de la nature divine. Là où la nature divine se meut, là où la nature divine agit, il y a la vie, il y a le mouvement et il y a l'être. L'être, c'est différent de l'existence. Parce que voyez-vous, Dieu n'existe pas. Dieu est. Il a dit, je suis celui qui suis. Je suis. Alléluia. Il est le je suis. Il n'existe pas, il est. Quelque chose qui existe est appelé à disparaître. Mais quelque chose qui est, subsiste éternellement. Quand il dit, en Dieu il y a la vie, il y a le mouvement et l'être, il veut dire qu'en Dieu il y a la vie, il y a l'action et il y a l'éternité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia! Donc, dans cette connaissance logos, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas le mouvement. Il n'y a pas l'être. Mais c'est une connaissance humaine. Et nous tous, nous avons accès à cette connaissance. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises sont caractérisées de personnes, composées de personnes, remplies de la connaissance logos. Au point que moi, je me souviens un jour, quand je commençais le ministère, il y avait un érudit de la connaissance logos dans la salle. Cette salle était encore au début, ce n'était pas aussi travaillé. Et j'ai parlé de deux mots là, grecs, et j'ai inversé les deux mots. J'ai donné les bonnes significations, mais j'ai inversé les deux mots. Bon, le peuple vraiment a été saisi sous l'onction, ils acclamaient le Seigneur, hallelujah, amen, par rapport à la révélation du message qui avait été donné. Et à la fin, le frère vient me voir. Il me dit, mais non, tu as prêché une hérésie là. J'ai eu peur, j'ai dit, ah, comment ça? J'ai dit, j'ai prêché une hérésie. Il me dit, oui, oui. Tu as dit que tel mot, ça voulait dire tel mot, et tel mot, ça voulait dire. Mais en fait, c'était l'inverse. J'ai dit, mon Dieu. Pendant que les autres saisissaient la vie, captaient la révélation, acclamaient le Seigneur, lui, il était focalisé sur le grec, l'araméen, l'hébreu et l'exactitude. La prononciation des mots et le pasteur aurait plutôt dit telle chose et plutôt, non, ce n'était pas ce mot qu'il fallait dire. Et beaucoup sont comme ça. Ils écoutent la parole de Dieu avec les oreilles du Logos. Et ils passent à côté de la révélation profonde. Parce qu'un homme peut parler. Mais c'est, il dit les choses qui ne sont pas de l'homme. Il dit des choses qui sont des choses divines. Des choses qu'il perçoit dans son esprit, mais qu'il essaie de traduire avec un langage humain. Vous comprenez? Ce ne sont pas des choses humaines. Donc, c'est pas facile de trouver les mots qu'il faut pour expliquer ces choses-là. L'apôtre Paul pouvait le dire. Il disait, il y a des choses tellement difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Mais parce que le langage humain est faible. Même entre deux langues humaines, il y a une différence. Il y a une différence d'interprétation. Un mot en français peut avoir moins de signification que le même mot traduit en anglais. Vous comprenez? Par exemple, le Saint-Esprit, en anglais, le Saint-Esprit. Mais en français, on dit le Saint-Esprit. Mais en anglais, on dit le Holy Ghost. Mais quand on traduit Holy Ghost, de l'anglais au français, ça veut dire le Saint-Fantôme. Bon, dites ça à quelqu'un. Que le Saint-Esprit est le Saint-Fantôme. On va dire, oh, 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 oh. Donc, si je prêche ici en disant le Saint-Esprit, le Saint-Fantôme, ceux qui sont dans le Logos, ils vont rester là. Comment ça, c'est un fantôme? Ah non, le fantôme, c'est un démon. Ah non, comment ça? Et ils sont dans le Logos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous comprenez cela? Le Logos, c'est la connaissance humaine. Et c'est ce Logos-là a donné naissance à une autre connaissance, la deuxième dimension de la connaissance humaine, qu'on appelle le gnosis. Gnosis, G-N-O-S-I-S. Le gnosis, c'est la connaissance qui résulte de l'activité mentale. C'est-à-dire que c'est une complémentarité de la connaissance précédente, le Logos. C'est même une résultante du Logos. C'est-à-dire que j'ai une connaissance livresque. Cette connaissance livresque, je la machine, je la médite et je fais travailler mes neurones, ok? Et au travers effectivement d'une activité mentale, j'accède au gnosis. Et le gnosis, c'est la capacité humaine que nous avons de faire travailler notre intellect et toutes nos capacités neuronales afin de pouvoir obtenir des résultats, à arriver à une sphère de créativité. Voyez-vous? Donc, toutes les personnes, par exemple, qui ont inventé les grands concepts, qui ont inventé des grandes théories ou encore qui ont créé des grandes choses dans le monde. On va parler des savants, des scientifiques, par exemple, des philosophes. Voyez-vous, toutes ces personnes-là opèrent dans la dimension du gnosis. Parce qu'en fait, ils ont une discipline de vie qui fait travailler leur mental. Donc, au travers d'une activité mentale, ils accèdent à des connexions neuronales qui leur donnent des ouvertures, ok, pour accéder à des connaissances qui leur permettent de créer des choses. Voilà pourquoi ils peuvent créer des modèles de voitures, des modèles d'avions. Ils peuvent créer l'avion, par exemple. Newton, par exemple, il a eu une révélation, une connaissance du gnosis. Mais le gnosis, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le donne. On le verra tout à l'heure. Donc après, ils ont inventé des lois de l'apaisanteur. Ils ont inventé des concepts que nous utilisons aujourd'hui. L'ordinateur, par exemple, Microsoft. Okay? Et de plus en plus, il y a de la créativité, il y a de l'innovation. Il y a même plusieurs concepts d'innovation. Il y en a qui parlent de concepts d'innovation par telle approche, par telle autre approche, etc. Il existe plein de concepts, mais issus donc de la connaissance humaine. Okay? Et cette connaissance-là, donc le gnosis, qui est effectivement la résultante du Logos, qui nous apporte la capacité à faire travailler nos neurones. Et il est prouvé scientifiquement qu'aujourd'hui, l'être humain a une capacité intellectuelle au-delà de tout ce qu'il peut même lui-même espérer et croire. Et que nous n'utilisons même pas le tiers de nos capacités humaines, même pas le tiers. Et que les grands savants que j'ai cités par exemple tout à l'heure, okay, qui ont fait des grandes découvertes, n'utilisent que 15% de leur intelligence. Donc il y a encore 75% qui restent là. On n'est que dans le gnosis. Imaginez-vous si un être humain était capable d'utiliser 100% du gnosis. Bon, ça 100%, c'est peut-être non, c'est un peu exagéré. Mais je veux dire, si un être humain était capable d'utiliser ne fût-ce que 50% de son gnosis, à quel type de résultat on serait aujourd'hui sur la Terre? Mais bref, Dieu nous parle d'un autre type de connaissance. Parce que ce que je viens de dire, c'est deux connaissances dans le domaine humain. Rien qu'avec ça déjà, l'homme est capable de faire de grandes choses. Il est capable de transformer le monde. Et on le voit, la technologie évolue. C'est incroyable. Quelqu'un a dit pendant que la technologie évolue, les bandits travaillent. C'est peut-être pas faux. Alléluia. Donc, Dieu va nous révéler d'autres types de connaissances. Dieu va nous parler de la connaissance Réma. La Réma, c'est la connaissance révélée. Mais quand je dis Réma, Réma, il y a plusieurs types de connaissances Réma. Réma, de façon standard, c'est la connaissance révélée. Mais dans cette connaissance révélée, il y a plusieurs connaissances. Nous avons le gnosko. Gnosko, c'est G-U-I-N-O-S-K-O. G-U-I, N-O-S-K-O. Ça, c'est le premier niveau du réma. C'est que quand tu as reçu Jésus dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Un enfant de Dieu né de nouveau, vraiment normalement constitué de façon spirituelle, doit au moins accéder au premier niveau de la connaissance révélée, au premier niveau du réma, donc la connaissance ginosko. C'est une connaissance générale et partielle de la parole de Dieu. Cette connaissance, elle nous est donnée par le Saint-Esprit, elle nous permet d'accéder déjà à un premier niveau de la révélation de Dieu. C'est cette connaissance-là qui nous donne de savoir que nos péchés sont pardonnés. Tu ne peux pas venir dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés si le Saint-Esprit au-dedans de lui ne l'a pas convaincu que ses péchés sont pardonnés. Tu peux lui dire tes péchés sont pardonnés, mais si dans son cœur, il n'a pas reçu cette connaissance, ginosko, que ses péchés lui sont pardonnés, il aura du mal à croire au pardon de Dieu pour sa vie. Si tu dis à quelqu'un, par exemple, que Jésus sur la croix a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, et il a tout accompli à la croix, il a porté nos maladies, et par les maîtrises de Christ à la croix, nous sommes guéris. Si le ginosko ne s'affiche pas dans son esprit, donc le réma de la dimension du ginosko, le réma de la dimension du ginosko, si ça ne s'affiche pas dans son esprit, il aura du mal à croire que réellement il est guéri. Donc il aura toujours conscience de son état humain. Il aura toujours conscience de sa nature, de la maladie qu'il porte. Pourquoi? Parce que dans son esprit, le ginosko ne s'est pas encore imprimé pour qu'il ait l'assurance de ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Pareil, si tu dis à quelqu'un que Jésus-Christ a dépouillé les dominations des autorités, que tout pouvoir nous a été donné par Jésus, et qu'au nom de Jésus, nous pouvons chasser les démons, au nom de Jésus, nous pouvons vivre notre vie tranquille sans que les démons nous oppressent, et même quand ils nous oppressent, nous pouvons les faire reculer par la puissance du sang de Jésus et du nom de Jésus. Cette connaissance restera intellectuelle pour la personne qui t'écoute si elle n'a pas reçu la réma de la dimension de ginosko. C'est-à-dire que si le ginosko n'est pas venu dans son esprit, dans son âme, pour convaincre dans son cœur que c'est la vérité et qu'il y a un déclic en lui, il aura du mal à l'accepter. Même s'il accepte, il aura du mal à le croire. Même s'il le croit, il aura du mal à le vivre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la dimension de révélation numéro 1. Et ça, normalement, tout chrétien né de nouveau, enfant de Dieu, ayant le Saint-Esprit en lui, normalement constitué, devra avoir ce premier niveau-là. C'est ça qui nous permet, quand nous lisons la parole de Dieu à la maison, de la comprendre à notre niveau, de la comprendre. Et c'est ce que la Bible dit, vous n'aurez même plus besoin que quelqu'un vous enseigne, parce que l'onction qui est en vous, vous enseignera toutes choses. Donc c'est ça, quand tu prends la parole de Dieu, tu la lis, elle te parle. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend? On entend la voix. Alléluia. Quand tu lis la parole de Dieu, la Bible, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, la foi ne vient pas de la parole de Dieu. Souvent quand je parle comme ça, je choque les gens. Mais j'aime bien former ce genre de phrases. Je fais exprès. La foi ne vient pas de la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est ce qu'on entend là qui vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Mais qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on peut entendre les écrits? Le frère est en train d'écrire, le frère Ferdinand, le général. Il écrit, mais est-ce que je peux entendre ce qu'il écrit? Non. Donc si je me limite à l'écrit, je ne peux pas accéder à la révélation, à la foi. Mais quand je lis ce qui est écrit et que j'entends une voix qui me parle, alléluia, alors je comprends en ce moment que la parole de Dieu est en train de me parler. Et j'entends cette voix. Et c'est cette voix qui sort de la parole de Dieu, que j'entends avec les oreilles de mon esprit, qui va m'apporter la foi dans mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est ce qu'on entend là qui vient de la parole de Dieu. Donc ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la voix. Donc le ginosko doit te donner la possibilité d'entendre au moins la voix de Dieu te parler quand tu lis la Bible chez toi. Le ginosko doit te donner d'entendre la voix du Saint-Esprit quand le pasteur Sosthène ou les prédicateurs ici qui se succèdent prêchent. Parce qu'au-delà de ce qu'il dit, il y a la voix du Saint-Esprit qui te parle et qui t'explique même mieux ce qu'il est en train d'essayer de traduire avec ses mots humains. Et parfois même pendant qu'il dit quelque chose, tu as même une explication plus profonde avec des versets complémentaires qui s'affichent dans ton esprit pour étayer les propos du prédicateur. Et toi-même déjà, tu peux être stimulé dans ton intelligence spirituelle et tu peux me faire déjà un message même mieux que celui que le pasteur t'a donné ici là. Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail au-dedans de toi. Il te fait accéder à une connaissance, ginosko. Mais la Bible nous révèle que cette connaissance-là, elle n'est que partielle. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, que quand nous accédons à cette connaissance, nous voyons simplement comme au travers d'un miroir. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Nous voyons comme au travers d'un miroir. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face un jour le Seigneur. La connaissance en question n'est que partielle. Elle est comme au travers d'un miroir. C'est d'ailleurs pourquoi on a besoin des guides spirituels, on a besoin des pères spirituels, on a besoin des personnes pour nous suivre. Et parfois, pour mieux nous expliquer la parole de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre de nous-mêmes. Alléluia. Parce que cette connaissance, ginosko, elle est partielle. Elle est même générale. Il y a une deuxième connaissance réma, deuxième connaissance révélée, qu'on appelle oïda. Oïda. O-I-T-R-E-M-A-D-A. Oïda. Oïda, c'est une connaissance qui nous permet d'être conscient d'une réalité spirituelle. Là, on monte un peu le niveau. On passe du ginosko à oïda. Ginosko, c'est général et c'est partiel. Oïda nous fait accéder à une réalité spirituelle. Par exemple, dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6, il nous est dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est oïda qui nous donne d'être conscient des réalités spirituelles. C'est oïda qui t'amène à croire. Et j'aime bien la version qui dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu ait dans son cœur la preuve évidente de son existence. Alléluia. Voyez-vous, ça traduit mieux. C'est-à-dire que quand tu t'approches de Dieu, c'est tellement réel au-dedans de toi, c'est réel. Le monde spirituel est réel. La vie divine est réelle. Mais ce n'est pas facile de l'expliquer à un être humain. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que l'être humain ne comprend pas ces choses. Tu vas essayer par des mots humains de lui expliquer, mais il ne va pas comprendre. Comment expliquer à un être humain que Jésus-Christ est dans ton cœur? Comment l'expliquer? Tu dis Jésus est dans mon cœur. J'ai reçu Jésus dans mon cœur. Comment? Même Nicodème avait du mal à comprendre ça. Il dit, dois-je encore rentrer dans le ventre de ma mère et renaître? Parce que Nicodème était dans le Logos. Vous comprenez? Mais Jésus ne parlait pas dans le Logos. Jésus parlait dans le Réma, mais dans la dimension de Oïda. Parce que pour Jésus, c'était réel. Non. Si tu es né de nouveau, tu peux pas vivre dans la sphère divine. Tu peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Écoute, mais attends, je comprends pas. Il y a quelque chose que... Toi, tu es docteur? Oh, alléluia. Peut-être que tu as étudié la parole, tu as étudié la lettre, tu as été à l'école théologique, tu connais toutes ces choses. Tu ne comprends pas cela. Le Oïda va te permettre d'être conscient des réalités de Dieu. Tu vas dire à quelqu'un, Jésus est dans mon cœur. Mes péchés sont pardonnés. Il va te dire, mais ce n'est pas possible. Comment Jésus a fait pour entendre? Explique-moi. Est-ce qu'il y a un médecin dans vos églises qui vous opère et puis il prend la statue de Jésus et puis met dans votre cœur? Ou bien, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mais c'est Oïda qui te permet d'accéder à cette connaissance. Et pour toi, c'est tellement vrai que parfois, tu n'arrives pas à l'expliquer. Mais c'est là, c'est réel. Tu es convaincu de cela. C'est Oïda qui t'amène à savoir que tes péchés sont pardonnés, tu iras au ciel avec assurance, avec certitude. C'est Oïda qui te donne l'assurance de ton salut. C'est Oïda qui t'amène à croire la parole de Dieu comme un enfant. Quand tu lis la parole de Dieu, tu crois et tu agis en fonction. C'est Oïda. C'est une dimension de révélation de la parole de Dieu qui t'amène à être conscient des réalités spirituelles que le monde ne peut pas comprendre, que la nature humaine ne peut pas saisir. Mais toi, tu es conscient de ces réalités spirituelles. Et d'entre les chrétiens, il y a des différenciations. On peut savoir des gens qui sont dans le ginosko, d'autres qui sont encore dans le oïda. Parce qu'il y en a qui sont plus conscients des réalités divines que d'autres. Quand on prie, on adore le Seigneur, il y en a qui sont là, mais pourquoi il pleure celui-là? Le frère, là, il aime toujours prier fort. Ça. Il est bizarre ce frère. Il y en a qui ont les yeux ouverts, il y en a qui ont les yeux fermés, il y en a qui sont concentrés, d'autres un peu distraits. On voit la différence. Il y en a qui sont plus conscients des réalités spirituelles que d'autres. Mais les autres qui sont en spectateur, c'est pas qu'ils ne croient pas, ils croient. Sauf qu'en fait, eux, ils sont dans une autre dimension encore. Ils attendent, bon, quand ils auraient fini leur adoration, là, on va prier pour les malades. Et là, je crois et je viens. Vous comprenez cela? On va faire la bénédiction et puis c'est terminé. Le Oïda nous fait aussi accéder à des réalités spirituelles du type, par exemple, les mystères, les dons spirituels. C'est par le Oïda. Vous allez noter les versets. Hein? Luc, chapitre 5, verset 22. Le frère va afficher ça. Compte tenu du temps, on n'aura pas le temps de lire tout ça. Mais je cite les versets, le frère affiche les versets et on les lit ensemble. Luc chapitre 5, verset 22. Luc chapitre 5, verset 22. Tu prendras aussi Luc chapitre 6, verset 8. Hein? Luc chapitre 6, verset 8. Hein? Et tu prendras également Luc chapitre 11, verset 17. Luc chapitre 11, verset 17. Dans Luc chapitre 5, verset 22, il est écrit ceci. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs ?» Chapitre 6, verset 8. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Chapitre 11, verset 17. Chapitre 11 de Luc, toujours, le verset 17. Alors, nous lisons ensemble. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. » Donc, comment Jésus pouvait pénétrer les pensées des êtres humains au point de connaître ce que ces êtres humains pensaient à l'instant même où il conversait avec eux? C'est par une connaissance surnaturelle des réalités spirituelles que Jésus pouvait accéder à ce type de révélation. Et il pouvait connaître les pensées du cœur de l'homme. Et quand nous sommes dans la connaissance Oïda, nous pouvons avoir une connaissance des pensées des hommes. Et le Oïda nous amène également à avoir les dons spirituels du type la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Ça, c'est le Oïda. Vous avez par exemple Salomon qui, devant une situation où deux femmes se disputent un enfant, pour déterminer réellement qui est la mère exacte, il va avoir accès à un type de connaissance, un type de sagesse surnaturelle. Il va dire, bon, amenez-moi cet enfant, on va le couper en deux, on va prendre une partie, on va donner à une femme et à l'autre mère. Et à l'instant, les entrailles qui ont enfanté ont tressailli. Elle a dit non. Ne tuez pas cet enfant. Donnez-lui à l'autre femme. Je préfère. Mais au moins qu'il ne meure pas. Tout de suite, le roi Salomon a discerné les entrailles d'une mère qui enfante. Et il a compris que cet enfant était réellement l'enfant de cette femme-là, appartient à cette femme. Et à l'instant, il a dit, donnez-lui son enfant, c'est son enfant. Cette connaissance du type sagesse de Dieu, parole de sagesse, est venue dans Salomon par Oïda. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, normalement constitué spirituellement, alléluia, devra accéder à Oïda. Parce que Oïda nous est aussi donné par le Saint-Esprit. Nous pouvons accéder à Oïda, nous pouvons connaître des choses et des réalités spirituelles et être conscients des réalités spirituelles. Accéder non seulement aux pensées des hommes, mais aussi accéder aux choses spirituelles, connaître les choses spirituelles autour de nous. Savoir discerner la saison, savoir discerner le temps de tel ou tel projet, savoir discerner, alléluia, savoir discerner le type de personne avec qui nous marchons, savoir discerner avec qui je vais mettre ensemble, savoir discerner, le discernement, ça fait partie de Oïda et le Saint-Esprit communique cela. Il nous communique cela. Et là, il ne s'agit pas ici de la connaissance humaine. Non, nous sommes maintenant rentrés dans la connaissance divine en ce moment. On a fini avec la connaissance humaine. Alléluia. Là, nous sommes dans les étapes de la connaissance divine. Et tout enfant de Dieu, ayant la nature divine en lui, a cette capacité surnaturelle en lui, mais il doit seulement apprendre à les développer. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Et il nous fait accéder à Ginosko, nous fait accéder à Oïda. Alléluia. Maintenant, la dernière connaissance qu'on va voir ensemble, c'est la connaissance appelée en grec épignosis. 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 Alléluia. On a épi. Et gnosis, qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut dire qu'en fait, c'est une composante de deux. On a épi. Épi, en grec, qui veut dire supérieur, au-dessus d'eux. Et gnosis, qui veut dire connaissance, résultat d'une activité mentale. En fait, l'épignosis, c'est une connaissance qui est supérieure à la connaissance intellectuelle. Elle est supérieure à la connaissance qui résulte de l'activité mentale. Voilà pourquoi la dernière fois, je vous disais que je vais vous montrer comment vous pouvez gagner beaucoup d'argent sans faire trop d'efforts. Parce que l'effort, c'est humain. La nature divine, elle ne force pas. Quand tu accèdes à Epignosos, Epignosis, tu intègres un niveau de connaissance qui est exact. Un niveau de connaissance pleine, absolue, complète. C'est le niveau supérieur de la connaissance. Tout enfant de Dieu a la capacité surnaturelle d'accéder à ce niveau de connaissance. Parce que nous sommes des êtres divins. Et en tant qu'êtres divins, créés à l'image de notre Dieu, nous pouvons accéder à la connaissance épignosis, car c'est la connaissance que notre Père utilise pour faire toutes sortes d'ouvrages. C'est la connaissance que notre Père céleste utilise pour créer les choses. C'est par cette connaissance qu'il a créé le monde. C'est par cette connaissance qu'il nous a créé nous. C'est par cette connaissance qu'il opère ce qu'on appelle des miracles sur la terre. C'est par cette connaissance qu'il avoue sa puissance. C'est par cette connaissance qu'il confond les salles de ce monde. Alléluia. C'est l'épignosis qui agit dans la nature divine. La plénitude de la nature divine incarne la plénitude de la connaissance divine. Du type épignosis, qui est une connaissance absolue, complète, qui n'est pas partielle, mais qui est au-dessus de la connaissance intellectuelle. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 119. Verset 105. Psaume 119, verset 105. Il est écrit ceci. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Le mot lampe ici est traduit en grec et en araméen par le mot nir, N-I-R et ner. N-E-R. Le mot nerf qui est la racine du mot neurone. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Que ce verset-là veut nous dire que la parole de Dieu est comme des nerfs, comme un système neuronal. La parole de Dieu agit dans nos neurones. La parole de Dieu booste nos nerfs. Suivez-moi s'il vous plaît, c'est très important. Nous sommes en train de parler de l'épignosis. C'est la connaissance supérieure. Et la parole de Dieu commence à nous expliquer comment l'acquérir. C'est-à-dire que lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle est une lampe à nos pieds. Elle est un nerf. C'est un système. Ça agit dans notre système neuronal. Ça booste nos neurones. Aujourd'hui, par exemple, pour agir dans le gnosis, dans la connaissance intellectuelle, parfois les gens, les humains, ont besoin de certains produits pour booster leur mémoire, pour booster leur intellect. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Quand nous agissons dans l'épignosis, la connaissance supérieure, ce qui booste nos neurones, ce ne sont pas les produits de la pharmacie, ce ne sont pas les pilules. Ce qui booste nos neurones, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lampe nerf. Oh, alléluia! Comment vous expliquer? Est-ce que me saisit? C'est la lampe. Ça touche nos nerfs. Et il ajoute, elle est une lumière sur notre sentier. Le mot lumière ici veut dire clairvoyance. Ça veut dire illumination. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1, il prie pour l'église d'Éphèse. Il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse dans sa connaissance. Laquelle? Épignosis. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez comprendre. Alléluia! Donc ici, la parole de Dieu agit dans nos neurones, de façon à les étendre, de façon à booster nos neurones. Oh, alléluia! La Bible déclare que c'est une lampe à mes pieds. Elle m'accorde la capacité surnaturelle de booster mes neurones. Une lumière sur mon sentier, elle éclaire, me donne la clairvoyance, la révélation. C'est pour cela que dans le même psaume, au chapitre 19, verset 130, il est écrit « La révélation de la parole de Dieu éclaire et donne de l'intelligence. » Donc une fois, on a été éclairé, on a été boosté dans nos neurones par la parole de Dieu, la conséquence c'est quoi? C'est que cette parole-là va nous donner l'intelligence, l'épignosis. Alors vous devez acclamer le Seigneur. Alléluia. Vous devez acclamer le Seigneur. Ça me... Oh, alléluia. C'est tellement fort en moi. Je ne sais pas ce que ça vous produit en vous, mais c'est fort. La Bible dit que c'est la parole de Dieu qui nous donne l'intelligence. C'est-à-dire que si le gnosis s'obtient par une activité mentale humaine, l'épignosis s'obtient par une activité spirituelle de méditation de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si je médite la parole de Dieu, c'est une activité mentale, oui, mais c'est bien plus que mentale, parce que ça touche non seulement mes neurones, mais mon intelligence spirituelle. Et ça stimule mon intelligence spirituelle. Ça m'amène à voir clair. Ça me donne la révélation des choses que je ne connais pas. Comment? Je ne sais pas. Mais voyez-vous, vous ne pouvez pas expliquer comment un produit chimique emballé dans une forme de pilule va entrer dans le ventre d'un homme et va toucher ses neurones au point de lui rendre capable de mémoriser des livres entiers. Ça, c'est ce que la connaissance humaine est capable de faire. Vous ne pourrez non plus expliquer comment la parole de Dieu que nous avalons pourrait rentrer dans notre âme et agir dans nos neurones de façon à étendre, à élargir notre capacité de mémorisation, à élargir notre capacité de réflexion, à élargir notre capacité intellectuelle. Vous ne pourrez pas l'expliquer. Pourquoi? Parce que c'est divinement que cela se passe. La Bible dit, élargis l'espace de ta tente et tends tes cordages. Il parle de quoi? Il ne parle pas de la tente humaine. Il parle de notre intellect. Par la parole de Dieu, nous pouvons élargir l'espace de notre intellect. Nous pouvons étendre les cordages de notre intelligence et notre capacité de mémorisation, de notre mémoire. Par la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit que nous devons lire la parole de Dieu jour et nuit. La nuit, pourquoi? Parce que quand tu dors, la parole de Dieu est comme une substance, comme cette pilule-là, qui rentre dans ton intelligence, dans ta mémoire, et qui agit pendant que tu dors. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est connecté. Connexion. Alléluia. Connexion. La Bible me dit que c'est la parole de Dieu qui est capable de faire ça. Ça veut dire quoi? Si je prends l'exemple du gnosis, qui est la connaissance humaine, qui peut être boosté par des produits humains, et je prends ces produits-là, à l'intérieur, il y a des composantes. Je ne sais pas comment on a fabriqué ça. Qui font que quand ça rentre dans le corps d'un être humain, ça agit dans son intelligence. La Bible me parle d'une connaissance supérieure à celle-là, qu'on appelle l'épignosis, qui s'obtient par une autre forme de pilule. Alléluia! Et si je bois cette pilule, je l'avale jour et nuit, c'est un traitement. Ceux qui prennent les pilules pour booster le gnosis suivent un traitement. Le pharmacien ou encore le médecin leur dit, vous prenez ça, par exemple, un le matin, un le soir. Mais la parole de Dieu nous dit que si nous prenons la pilule qui nous permet d'obtenir l'épignosis et que nous respectons le traitement de Dieu, de la boire jour et nuit, la Bible déclare que nous serons comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrira jamais. Et tout ce que nous ferons réussira. Alléluia! 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 Et tout ce que nous ferons réussira. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le confère. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la parole de Dieu, il y a des produits qui ne sont pas chimiques. Il y a des substances qui ne sont pas chimiques, mais qui sont divines. Qui agissent dans ma mémoire, qui agissent dans mes neurones, qui agissent dans mon intellect et qui m'apporte la connaissance supérieure à tout type de connaissance. C'est pour cela que Daniel avait une connaissance
supérieure à celle de ses collègues. Pourquoi? La Bible déclare que Daniel ne buvait pas les pilules des pharmaciens. Daniel ne mangeait pas la nourriture du roi. Daniel ne buvait pas le vin des rois. Daniel ne mangeait pas la nourriture de Babylone. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait tout ce qui porte de la vie. Qu'est-ce qu'il mangeait? Il se nourrissait beaucoup des végétaux. Voilà pourquoi le jeûne de Daniel. Pendant 21 jours, il ne mangeait que des fruits, que des légumes. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que dans le jardin d'Éden, il y avait une loi divine. Où Dieu a dit à Adam, tu mangeras tout arbre portant de la semence. Toute plante, tout végétaux portant de la semence. Daniel a compris cela. Et Daniel avait un régime spirituel assez compliqué. Au point que le roi ne comprenait pas. Les gens qui travaillaient autour du roi ne comprenaient pas. Ils disaient, mais si vous ne mangez pas la nourriture que le roi vous donne, vous allez maigrir. Et si vous maigrissez, toi et tes amis, le roi ne va plus vous recruter parce que le roi cherchait des jeunes gens intelligents. Il faisait un casting. Et costaud. Daniel a dit, il n'y a pas de problème. Les autres vont manger la nourriture du roi pour être costaud. Moi, j'ai une autre nourriture que je dois manger, qui me booste. Et la Bible nous dit que Daniel et ses amis étaient non seulement plus costauds, mais également ils avaient une intelligence supérieure à leurs collègues et ils étaient beaux de figure. Oh, alléluia, alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient une autre nourriture portant la vie, une autre nourriture. Et il mangeait cette nourriture-là. Mais c'est quoi les végétaux? N'allez pas me dire que le pasteur a dit qu'on doit maintenant devenir des végétariens. S'il vous plaît. La parole est claire. Toute semence, toute herbe, toute plante portant de la vie. Qu'est-ce qui porte la vie? Qu'est-ce qui porte la vie? Qu'est-ce qui porte la vie? La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Donc si nous mangeons la parole de Dieu, nous nous nourrissons quotidiennement la parole de Dieu, la Bible déclare que ce sont comme des végétaux, c'est comme des herbes, c'est comme des plantes qui portent de la vie. Voilà pourquoi il a dit que si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous n'imaginez pas les substances qu'il y a dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Dieu négligent la parole de Dieu et ne lisent pas la parole de Dieu suffisamment. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, ils ne réalisent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il est très facile pour vous d'accepter le traitement des médecins, même si vous n'expliquez pas les composantes chimiques qu'il y a dans le comprimé ou dans la pilule qu'on vous a donnée. Vous faites confiance au médecin et vous vous engagez dans un traitement, même si ça dure 3 ans, vous le faites. Mais le Dieu qui vous a créé, oh, le Tout-Puissant, il vous donne un traitement. Il vous donne des pilules à boire tous les jours. La parole de Dieu. Même s'il ne vous dit pas toutes les composantes qu'il y a à l'intérieur, frères et sœurs, ce que nous avons à faire, c'est simplement de la méditer jour et nuit. Simplement. Voilà pourquoi ici à l'église, les gens ne comprennent pas pourquoi depuis quasiment 3 ans, j'ai instauré le réseau local de lecture de la Bible. Bien aimé, j'ai expérimenté l'épignosis. Je n'ai pas la prétention de dire que je l'ai expérimenté de façon permanente et de façon totale. Je n'ai peut-être pas encore la plénitude de l'épignosis, mais je peux vous témoigner des situations où l'épignosis est venu. Je n'ai rien compris. Je ne sais pas comment j'ai fait passer mes tests, que ce soit à l'école. Parce que, voyez-vous, je vais vous surprendre, j'ai un bac plus 5, mais je n'ai pas de bac. J'ai un diplôme bac plus 5, mais je n'ai pas de bac. Je n'ai jamais passé mon bac. Je n'ai jamais fait la terminale. Je n'ai jamais fait la première.
Je n'ai jamais fait la seconde. Mon cursus d'études, je me suis arrêté en troisième. Et après, j'ai passé un concours d'accès à l'école de commerce à mon pays, au Gabon. Et je suis parti, j'ai fait une formation d'école de commerce. Alors, à la fin du cursus, on vous donne un diplôme qui équivaut au bac plus 1. Mais ce diplôme bac plus 1 n'équivaut à aucun diplôme universitaire. Vous êtes d'accord avec moi qu'aucun diplôme universitaire ne commence par bac plus 1. En fait, c'était une école qui avait été créée par les opérateurs économiques pour former leurs agents. Dès que vous avez fini, vous êtes directement opérationnel, vous travaillez. Donc moi, j'ai travaillé pendant 5 ans dans mon pays, après avoir effectivement fait cette école. Mais j'ai eu envie de poursuivre mes études. Mais je n'avais pas le bac. Comment quelqu'un qui n'a pas le bac peut venir faire un troisième cycle? Alors, je viens avec un diplôme bac plus 1. Bon, je suis allé voir mon ancien directeur d'école pour dire, mais ça, je ne peux pas aller poursuivre mes études avec un diplôme bac plus 1. Il m'a dit, bon, ce n'est pas un problème parce qu'il y a une loi qui va sortir bientôt au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui va en fait reconnaître votre diplôme et va l'homologuer à un niveau bac plus 2. Parce que maintenant, de plus en plus, les étudiants sortant de cette école avaient du mal à trouver du travail. Donc, il fallait élargir les possibilités pour que les étudiants trouvent du travail. C'est comme ça que je vais être le premier à bénéficier de cette loi avant même qu'elle ne sorte. Dans son bureau comme ça, il dit, mais il y a un texte qui vient de sortir. Tu es le premier sur la voie. Il m'a fait homologation. Donc, je viens ici avec un diplôme homologué bac plus 2 pour chercher à faire des études d'un niveau bac plus 3, ce qui est logique. Bien entendu, quand j'arrive, on me présente de ces formules mathématiques-là. J'étais complètement perdu. Je dis, mais mince, Seigneur, ce n'est pas possible. Et puis, je vais échouer brillamment à ces examens-là. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore compris les pignoussis. Alléluia. Bon, la suite de l'histoire, vous connaissez parce que j'ai fait mon témoignage, même dans mon livre, j'en parle. Ok, comment c'était difficile, effectivement, parce qu'il fallait... Et puis, je suis convoqué par une école. Pas pour me proposer un bac plus 3, non. Pour me proposer un diplôme bac plus 5. Ça n'a pas de sens. J'ai bac plus 2 homologué, en réalité, bac plus 1. Et on me propose une formation de niveau bac plus 5. Je ne peux pas la faire. Humainement parlant, vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas la faire. Mon épouse, qui est pour moi vraiment, c'est mon Saint-Esprit. Je vous assure. Et que le Saint-Esprit parle beaucoup au travers d'elle. Mais vas-y quand même, c'est une journée porte ouverte. Ça ne te coûte rien, tu vas, tu écoutes, et puis bon, après tu verras. Et c'est là, à Talence, là, à côté, Bordeaux École Supérieure de Management. Hein? L'École Supérieure de Commerce de Bordeaux. 10 000 euros de formation. On nous présente les plaquettes. Et c'est là, j'écoute, je regarde, je dis, waouh. Il y a une voix qui me dit, ça, c'est pas pour toi. Je dis, ah oui, ça, c'est clair, ça, c'est pas pour moi. Alléluia. Mais comme j'avais fait le déplacement, j'ai pris les bus, etc. À l'époque, il n'y avait même pas encore des trams. C'était en 2002. J'ai pris les bus, etc. J'étais fatigué, j'ai dit, bon. À la fin, il y avait une collation là. Bon, je ne vais pas quand même souffrir pour rien. On attendait la fin pour aller prendre la collation. À la fin, justement, il y a le directeur pédagogique qui vient et qui dit, au fait, un détail important, c'est vrai qu'il faut avoir un niveau bac plus 4 pour accéder à cette formation, mais si quelqu'un a un niveau bac plus 2 et qu'il a fait, par exemple, 3 ans d'année d'expérience professionnelle, il peut amener son dossier, on va examiner, on va lui faire passer des tests pour validation d'acquis professionnel. Et s'il réussit à ces tests, alors il pourra accéder à la formation. Je dis, ok, d'accord. Je suis allé le voir, j'ai amené mon dossier. Ils m'ont fait passer les tests, etc. etc. C'est la première fois que j'ai passé tel test. Et quand ils me font passer les tests, quelques temps plus tard, ils m'écrivent pour me dire, vous avez réussi à la validation d'acquis professionnel, mais vous n'êtes pas encore admis à l'école. Maintenant, il vous faudra passer des tests d'admission à l'école. Ouh là là, là c'était le plus difficile. Quand j'arrive, j'étais même au courant de rien. On me dit, non, voilà, il fallait préparer un projet longtemps d'avance. Il fallait faire telle chose. On m'a présenté des tests psychotiques. J'étais complètement perdu. J'avais 15 minutes dans un coin pour préparer tout cela. Alors là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et c'est à l'instant là, sans savoir, c'est maintenant aujourd'hui que je comprends que c'était l'épignosis, que je commence à expérimenter l'épignosis. À l'instant, il y a comme quelque chose qui s'affiche dans mon esprit. Un projet.
un projet tout monté. Je prends un bout de papier. Je commence à écrire mon projet. Je dis, bon, voilà, ça va être un projet de création d'entreprise qui va s'appeler Société d'exploitation des ressources naturelles. On va importer, exporter du manioc, de la banane, de la patate, des taros. C'est sérieux. J'ai écrit ça à l'instant. Maintenant, il faut le vendre. En quoi ce projet-là pourrait contribuer au développement socio-économique? Bon, voilà. Les pays africains, par exemple, ont besoin de venir sur le marché de la mondialisation avec quelque chose. C'est un lieu de donner, de recevoir. J'ai commencé à écrire tout ça. Ça me venait comme ça. J'écris. Ils m'ont amené leur truc à cocher là. Je cochais. Je ne savais même pas quoi je cochais. Je cochais. Vrai, faux. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Je cochais seulement, mais je ne savais pas. On apporte un autre micro. Mais pendant que je cochais là, c'est bizarre, j'avais un sentiment que, avant de cocher, que c'est ça qu'il fallait cocher. Est-ce que vous me comprenez? Des tests psychothèques. Tac, tac, tac. Et dans mon esprit, je sentais que c'est là. Coche là. Non, pas là. Là. Oui, non, là. Oh. Et j'ai coché. J'ai fini, j'ai remis. Après, on dit, bon voilà, vous allez être reçu par le jury. Je m'en vais là-bas et tout. Présentez votre projet. Je présente le projet. Ta. Ils sont là. Ah oui. Ah oui, quand même. Mais comment expliquer? J'explique. Les réponses me venaient à l'instant même. Je sais pas. C'est là où Jésus a dit, même si on vous traîne devant les tribunaux, oh, alléluia, vous n'aurez pas besoin de savoir qu'est-ce que vous aurez à dire. Parce que ce que vous aurez à dire, la connaissance vous sera donnée à l'instant même. L'épignosis vous viendra à l'instant même. C'est une connaissance surnaturelle, divine, qui vient à l'instant par le Saint-Esprit, qui s'affiche au-dedans de vous. Vous savez seulement que vous savez. Alléluia! Vous savez seulement que vous savez ce que vous savez! Alléluia! Et j'ai réussi brillamment à l'admission 3e cycle, Master Bac plus 5. J'arrive là-bas, les matières, je n'avais jamais vu ça. Je t'ai dit, mon Dieu Seigneur, où est-ce que je suis arrivé? On me parle de ceci, de cela, j'étais là pendant 12 mois de formation. Bon, les autres, quand ils en parlent, ils connaissent, hein, ils ont été déjà, ils ont un bagage, ils ont même une expérience professionnelle, ils savent de quoi ils parlent. Et moi, je suis là, complètement perdu. Ils discutaient tout là, les concepts. Je découvrais en même temps. Je découvrais, j'appréhendais, je comprenais, j'avançais avec eux. Les trois premiers mois, c'était difficile. Sorti par-ci, par-là. Quand il parlait, quand il parle comme ça, pour ne pas être ridicule, je m'éclipse. Je fais semblant d'aller boire un café. Parce que je sais qu'ils vont me poser des questions, je peux pas répondre. Vous comprenez? Mais au fur et à mesure, Dieu élargissait. Il élargissait mon intelligence. Et je commençais à comprendre, à cerner les choses, à comprendre. Et ça devenait pour moi des matières comme si c'était familier. Je me suis familiarisé aux matières. D'un niveau Bac plus 5 ou 3e cycle, bien aimé. Master, je me suis familiarisé à ces matières-là que je ne connaissais pas. Je les ai comprises, je les ai assimilées. J'ai fait ma soutenance. Quand j'ai fait ma soutenance, j'ai fait un travail de thèse pendant 2 ans. En 2 semaines de la thèse, mon prof de thèse me dit que mon travail, il ne valide pas. À 2 semaines, ma femme me dit non, ce n'est pas normal. Une thèse que tu as préparée avec ton maître de stage de thèse pendant 2 ans, à la dernière minute, il ne peut pas vous dire que non, voilà, tu es hors sujet. C'est faux. Parce que pendant 2 ans quand même, il a eu le temps quand même de... C'est pas à 2 semaines qu'il va te dire que tu es hors sujet. Ma femme me dit que non, c'est spirituel. On va prier. On a prié pour ça. Et le gars était radical. Il avait déjà écrit à l'école que non, voilà, je ne valide pas. Donc, on considère qu'en fait, j'étais échoué. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Dites-moi. Il me dit, si vous voulez, recommencez votre thèse. On est à 2 semaines. Recommencez la thèse. Et présentez-moi une thèse plus intéressante, plus fiable. Ah, 2 semaines. Et il ose me lancer un défi. J'ai dit, bon, ok, je vais voir si vous allez y arriver. Mais de toute façon, s'il faut faire des nuits blanches, je vais les faire. Après, il fait. Mais c'est tout ce qui reste à faire. Bien aimé. 2 semaines de nuits blanches. Oh. Bien aimé. Bien sûr, là, une fois de plus, le Saint-Esprit m'a visité.
Et je ne sais pas où j'ai trouvé les éléments. Une fois, je tapais seulement sur Google un mot. Tout d'un coup, j'ai une source d'information. Je me dis, mon Dieu Seigneur, je fais quoi? Et dans mon cœur, quelque chose me dit, ne va pas ailleurs. Clique là et clique là, c'est tout. Arrête-toi là. Je clique là. Je télécharge des fichiers, des PDF. Je me mets à découvrir. Quand je lis une, deux, trois pages, j'ai l'intuition de la suite. Et je commence à écrire. Je ne finissais jamais tout un document. De toute façon, je n'avais pas le temps. Donc, en lisant une ou deux pages, trois pages, c'est comme si mon esprit s'ouvrait pour comprendre la suite. Et j'écrivais. Et pendant 2 semaines, j'ai écrit une thèse de 2 ans. J'ai présenté cette thèse. Je l'ai présentée. C'est parce que la soeur Sarah n'est pas là. Elle a assisté à ma soutenance. Là, je l'ai présentée. Ils ont apprécié ma thèse. Même le professeur lui-même, il était là, il regardait. Quand je faisais défiler les diapos, clic là. Oh, j'étais trop content. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Un dernier témoignage. Quand j'ai intégré la poste pour donner des formations, là-bas, c'est un challenge. Il y a des formations, c'est des plannings chargés. Vous n'avez pas le temps de préparer une formation comme ça. On considère que vous avez une expérience, on considère que vous avez une connaissance, on considère que vous avez des aptitudes de lire quelque chose et de vous l'approprier et de pouvoir effectivement sortir quelque chose, une formation de ça. Donc, je viens d'arriver. Je ne comprends pas encore le système. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais il faut rentrer dans la course. Je me souviens d'un jour, on m'a présenté à 2 jours de la formation un classeur comme ça, qu'on vient de poser sur mon bureau. Pan. Vous avez formation après-demain à Poitiers. J'ouvre là, je regarde. Je me retourne, je regarde. Je ne comprends rien du tout. Je dis, Seigneur, je ne peux pas refuser. Je suis en période d'essai. Je dis, je m'engage. Je m'avais à Poitiers. Dans le train, j'ouvre encore. Je regarde, je ne comprends rien. J'arrive, j'installe la salle. Mais quelque chose au-dedans de moi qui disait, vas-y. J'installe la salle, j'installe le matériel. Pendant que j'installe le matériel, je ne comprends rien. Je ne sais pas quoi je vais dire au stagiaire. J'allume l'ordinateur, j'affiche le cours. Bien aimé, quand j'ouvre la première page du classeur, rien que le sommaire, je lis le sommaire comme ça. Non, c'est comme si derrière chaque sommaire, comme quand vous cliquez sur à l'ordinateur, là, clique, il y a un menu qui s'affiche. Sous-menu, hein, etc., etc. C'était instantanément. Quand je lis, premier titre, c'est comme si je vois derrière ce qui s'affiche. Clac! Oh, bien aimé. Et pendant que je suis en train de parler, c'est là que je comprends. Au même moment, je regarde, je lis le diapo, c'est là que je comprends et je leur explique en même temps. Mais ils ne comprennent pas que je ne comprenais pas et que je comprends seulement maintenant. Épignosis. Épignosis. Alléluia. Épignosis. Quand j'ai fini la formation, à la fin là, quand les stagiaires vous disent au revoir, tu as envie qu'ils partent vite. Au revoir, oui, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Tu fermes la porte, tu te mets à genoux, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Korababa shakarababa. Koraba. Alléluia. Alléluia. Parce que tu reconnais que ça ne vient pas de toi. Tu sais que non, là, ce n'est pas toi, Seigneur. Comment je fais? Alléluia. Et ça m'est arrivé plus d'une fois. Et un jour, je m'amusais à rigoler comme ça avec la soeur Fanny Gavé. Je disais, j'ai l'impression que moi, j'ai l'intelligence. Comment je parlais ça encore? Intelligence, j'ai utilisé un mot pour dire que mon intelligence que j'ai là. En fait, humainement parlant, on dirait que moi, je ne suis pas intelligent. Honnêtement, humainement parlant. Parce que je n'ai pas le bagage intellectuel normal d'un intellectuel selon ce monde, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas. Mais je fais les mêmes choses que ceux qui ont fait Bac plus 5. Et je suis parmi les meilleurs. Vous comprenez cela? Quand vous voyez mes notifications, quand mon chef voit les évaluations des stagiaires, parce qu'à la fin, hein, les stagiaires aussi disent un peu, voilà, il y a une évaluation chaude. Il était surpris à plusieurs reprises, dans plusieurs évaluations, on dit, formateur très compétent. Nous souhaitons que la prochaine fois, nous ayons le même formateur. Exprimé par les stagiaires. Je suis le seul formateur qui aujourd'hui reçoit des offrandes des stagiaires. C'est-à-dire que les stagiaires m'envoient des cadeaux, des lecteurs DVD, m'envoient des... Même quand le film Chez les Ch'tis est arrivé, j'ai été le premier à recevoir ça d'un stagiaire. Il m'a offert ça. Plein de cadeaux, les stylos écrits Sosten dessus. Des gens qui me remercient, merci de m'avoir fait grandir. Dans mon cas, je montre comment je l'ai fait grandir. S'ils pouvaient savoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les étudiants, à l'école, vous pouvez expérimenter le gnosis. Si vous mangez de toute herbe portant de la semence de vie, votre intelligence va s'ouvrir au point que Dieu est capable de vous dire quelle est la leçon que tu dois étudier. Tu n'as pas besoin de passer de nuit et de nuit blanche forcément et de stresser à la veille d'un examen. Mais le gnosis peut s'afficher dans ton esprit et te dire clairement ce que tu peux étudier, ce qu'il faut faire et comment étudier, même la méthode, la stratégie. Oh, alléluia! Et tu peux étudier simplement en mode no stress. Alléluia! Ne pas courir à gauche, à droite. Cibler droit par la capacité du gnosis. Donc, tu vas avoir des résultats, mais en travaillant moins. Normalement. Oui, moins par rapport aux autres. Et par rapport à avant. Oui, parce qu'on se donne une peine humaine. Parfois, on travaille trop, mais pour peu de résultats. Avec le gnosis, tu peux ne pas travailler trop pour avoir un résultat supérieur. Le gnosis vient par la parole de Dieu. L'épignosis, merci, tu suis. L'épignosis vient par tout herbe portant de la semence de vie, la parole de Dieu. L'épignosis vient par une activité mentale spirituelle, le jeûne et la prière. L'épignosis vient par le Saint-Esprit venant sur nous. Et nous lisons dans Exode, chapitre 3, versets 2 à 3. Vous notez cela, parce que je vais bientôt finir. Exode, chapitre 3, versets 2 à 3. Que Dieu, on va lire ça ensemble. Exode. Exode. Non, c'est pas le verset que je cherche. J'ai choisi, cherche-moi ça, j'ai choisi Betsalel. Tu tapes ça sur la Bible là, j'ai choisi Betsalel, il va nous afficher ça. Et on va lire ensemble, on va voir comment l'épignosis vient. C'est dans Exode. Merci. Exode 31, verset 2 à 3. Il dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. De travailler de l'or, l'argent, les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. L'épignosis vient par l'action du Saint-Esprit sur la vie de quelqu'un. Et quand il arrive, il élargit l'espace de ta tente, tes capacités neuronales au point que tu es capable de faire des inventions et de créer
toutes sortes d'ouvrages dans tous les secteurs d'activité. Ici, le Saint-Esprit te donne l'épignosis, pas seulement dans un domaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Excusez-moi pour le temps, mais il faut que je libère. C'est-à-dire que la connaissance humaine va te dire que tu ne peux pas être bon partout. Mais la connaissance divine va t'amener à être bon partout. C'est-à-dire que tu peux ne pas humainement être bon en maths. Mais par la connaissance divine, tu peux être bon en maths, bon en informatique, bon en médecine, bon en droit. Donc, tu peux comprendre toutes les matières. Il a dit l'intelligence pour faire toutes sortes d'ouvrages. Même si tu n'as pas été dans un domaine à l'école, l'épignosis, quand ça vient en toi, ça te rend même expert, plus que ceux qui sont allés à l'école et qui ont fait Bac plus 5 dans le domaine. Est-ce que les étudiants me comprennent? L'épignosis agit de façon à te rendre capable d'appréhender toutes sortes de matières et de faire toutes sortes d'ouvrages. L'épignosis t'apporte la connaissance qui te donne d'être créatif. La créativité, l'innovation, tu peux être bon partout. Tu peux comprendre toutes les matières parce que c'est la connaissance de Dieu. C'est la science de Dieu. Dieu est le Dieu de la science. N'avez-vous pas encore lu ça dans le livre des Proverbes? Dieu est le Dieu de la science. Mais quelle science? Il ne s'agit pas de la science gnosis. Il s'agit de la science épignosis. Dernier verset. Là, je parlerai aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs ou encore aux travailleurs. Genèse chapitre 30, versets 35 et 43. Genèse 30. C'est Jacob qui est chez son beau-père là-bas. Jacob n'a jamais été gardien de troupeau ou encore, il ne connaissait pas ce domaine-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive et son beau-père le soumet à des travaux pour avoir sa fille. Et il va travailler. Mais son beau-père ne comprenait pas d'où lui venait son secret parce que depuis qu'il était arrivé chez Laban, le troupeau de Laban avait multiplié. Là où Laban avait du mal à prospérer, par l'arrivée de Jacob, son entreprise a commencé à prospérer. Au point que Laban est devenu jaloux de Jacob. Mais ici, Jacob nous révèle son secret. Dans Genèse chapitre 30, verset 35 à 43, on va lire. Donc, comment il procédait? Il dit, ce jour, il mit à part les boucs rayés et marqués, toutes les chèvres tachetées et marquées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du nouveau du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela les bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les augues, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur, en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marqués. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait des branches dans les augues, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Voici la stratégie de Jacob. Voici comment il travaillait. Maintenant, la question est de savoir, qui lui a montré cette façon de travailler? Qui lui a révélé cette stratégie? Qui lui a révélé cette formule?
Genèse 31, verset 10 à 13. Genèse 31, verset 10 à 13. Là, Jacob nous révèle réellement son secret. Il dit, comment il a fait pour avoir cette formule-là? Il dit, au temps où les brebis entraient en chaleur, je levais les yeux. Dites, je levais les yeux. Il parlait de quoi? De là? De la perception. Au temps où les brebis entraient en chaleur, il activait sa perception. Et il était à l'affût de la connaissance épignosis. Il attendait qu'elle arrive. Oh, alléluia. Il se tournait vers l'Éternel. Et il dit, je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marqués. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, mais voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marqués. Car j'ai vu tout ce que te fais là-bas. C'est là que Dieu, au travers d'un ange, révèle à Jacob la stratégie qu'on vient de lire tout à l'heure, comment il fallait faire pour fructifier le troupeau. Mais en quoi? En songe. Je suppose que Jacob lisait la parole de Dieu jour et nuit. Je le crois. C'est même pas que je peux conclure, mais je le sais. Parce que Josué 1,8 nous dit, si nous méditons la parole de Dieu jour et nuit, si ce livre de la loi sera un point de ta bouche, et que tu le médites jour et nuit, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras du succès dans tes entreprises. Jacob, et tu réussiras. Jacob était de ceux-là qui lisaient la parole de Dieu jour et nuit. Voilà pourquoi, quand il dormait, sa perception était éveillée, activée. Au point que Dieu pouvait se révéler en lui en songe pour lui parler et pour lui montrer des formules. Alléluia! De créativité, d'innovation, afin de fructifier le troupeau. Et de ce fait, Jacob a réussi. Il a eu du succès au point de susciter la jalousie de son beau-père. Alléluia! Ça là, c'est l'épine aussi qui nous est donnée par une capacité surnaturelle et divine. Jacob ne l'a pas appris à l'école. Il ne l'a pas appris dans une école d'ingénieur agro. Vous taquinez un peu Herman. Alléluia. Il n'a pas été dans une école de l'élevage de troupeaux. Il n'a pas un bac plus 5. Mais par une action surnaturelle, Dieu lui a donné la capacité d'appréhender des mystères. Et je vous parie, je défie, que tous les grands savants du monde n'ont pas bac plus 5. Toutes les personnes qui ont fait des créations, des formules, etc., des concepts, n'ont pas bac plus 5. Alléluia. C'était des autodidactes. Mais si eux, dans la dimension humaine, ont pu faire ça, imaginez, nous qui sommes enfants de Dieu, ayant la parole de Dieu, ayant le Saint-Esprit, ayant toute terre portant la semence de vie, alléluia, ayant toute cette capacité surnaturelle et divine, ce que nous serons capables de faire dans notre propre vie et dans la société. Dans nos études, dans notre travail, et dans nos entreprises. Le problème, c'est que notre livre que nous utilisons là, nous n'avons pas suffisamment mesuré sa valeur. Voilà pourquoi nous sommes assis sur une mine d'or, mais nous mourons de faim. Nous habitons dans une maison pleine de richesses, où notre père est roi. Mais nous marchons à pied et nous nous habillons comme des êtres pauvres. Et nous disons que nous avons la parole de Dieu, la Bible. Un jour, un musulman a dit à un homme de Dieu, il a dit que vous les chrétiens, vous êtes bêtes. Ça l'a énervé. Quoi, comment je suis bête? Il dit si. Parce que vous ne croyez pas vraiment ce que vous lisez. Vous ne croyez pas vraiment ce à quoi vous prétendez croire. Parce que nous, les musulmans, quand nous croyons en quelque chose, nous sommes prêts à donner notre vie et à sacrifier toute notre destinée, même acceptant de laisser enfants, femmes, héritage,
pour aller mourir dans un avion qui tombe sur des tours. Parce que nous croyons en ce que nous disons que nous croyons. Mais vous les chrétiens, vous prétendez avoir la vérité, la parole de Dieu. Et regardez vos vies. Regardez comment vous êtes. Vous souffrez. Vous ne croyez réellement pas en ce que vous lisez. Vous ne croyez réellement pas en cette Bible que vous prétendez être la parole de Dieu. L'homme de Dieu était choqué. Mais pourtant dans son cœur, il savait qu'il avait raison. Il savait. Voici le problème des chrétiens aujourd'hui. Alors, nos églises sont remplies de beaucoup d'adeptes qui n'attendent que les dons spirituels et les impositions des mains. Ça s'arrête là. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas là, bien-aimé. Elle ne s'arrête pas là. Ça, ce ne sont que des choses qui nous aident et qui devaient nous aider à aller plus loin à la connaissance supérieure. L'épignosis. Ainsi, nous pourrons opérer dans la sphère divine. Lève-nous, nous allons prier. Alléluia, Jésus. Oh, si ce message a révolutionné ton cœur, commence à crier vers Dieu. Dis, j'en ai assez de ma vie. Je veux qu'elle change. Je veux qu'elle change. Je veux plus rester dans la monotonie, dans la lassitude. Je veux qu'elle change. C'en est assez, Seigneur. Je t'en supplie. Élargis l'espace de ma tente. Étends mes cordages. Je t'en supplie, Père. Ouvre mon intelligence. Stimule mes capacités neuronales. Donne-moi de transcender les connaissances humaines et d'accéder à la connaissance épignosis. Pas seulement de façon ponctuelle, occasionnelle, mais de façon presque permanente. Je désire à chaque situation que tu m'aides, que je rentre dans la connaissance épignosis. Et la Bible nous dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde veut voir des êtres et des femmes, des hommes et des femmes qui agissent dans la dimension divine, la révélation des fils de Dieu, des dieux qui agissent comme des dieux et qui supplantent tout ce que les êtres humains ont fait sur la terre. Cela est possible. Seigneur, inspire tes enfants. Parce qu'il y a des dons en nous. Il y a des talents en nous. Il y a des capacités en nous. Il y a un potentiel énorme. Mais qui n'attend que de rencontrer l'épignosis. Lorsque mon potentiel va rencontrer l'épignosis, alors, Seigneur, en cet instant, je rentrerai dans la sphère de la créativité. Je rentrerai dans la sphère, Seigneur, au Dieu de la divinité. Et je serai capable de faire des choses qu'un être humain ne serait pas capable de faire. Parce que lorsque mon potentiel rencontre l'épignosis, toutes les limites intellectuelles sont renversées. Toutes les limites humaines sont renversées. Et mon intelligence devient une tente qui s'élargit. Ma mémoire devient une tente qui s'élargit, qui étend ses cordages et qui est capable de crier, d'innover. Inspire, Seigneur, à tes enfants de nouveaux types de produits. De nouveaux types d'entreprises, de nouveaux concepts de prestations sur le marché qui n'existent même pas. Inspire à tes enfants. Inspire, Seigneur. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour ton peuple ce matin. Viens stimuler l'épignosis en nous. Fais que l'épignosis rencontre notre potentiel afin que nous puissions rentrer chacun dans ce à quoi tu nous appelles sur la terre à réaliser vis-à-vis de notre société. C'est ainsi que l'Église aura un impact dans la société. C'est ainsi que l'Église pourra avoir de l'influence. C'est ainsi que l'Église ne sera plus considérée comme un simple bâtiment où des hommes et des femmes pauvres viennent s'asseoir pour pleurer sur leur sort.
mais plutôt un sang.
Nous espérons que vous avez été béni par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.